Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Il est vrai que le Covid occupe et mobilise toutes les presses du monde entier. Il est vrai que les nouveaux gouvernements qui se bousculent, qui se remplacent un peu partout, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais je cherche des informations sur le procès de Julian Assange qui vient de se rouvrir ce lundi à Londres. Eh bien, apparemment, ça n'intéresse pas la presse mondiale, la presse politique, la presse d'investigation. Voilà ce que je vous ai collecté. Voilà le mauvais polar dont Julian Assange est le héros. Cette semaine, Jonathan Cook, pour Le Grand Soir, met les pendules à l'heure. Voici pour commencer son article adapté pour la radio. D'autres suivront, dont celui d'Edoui Plenel, et je l'espère, quelques autres encore, pour la semaine prochaine. En applaudissant pendant des années les violences contre Assange, les médias ont ouvert la voie vers le goulag américain. Les audiences du tribunal britannique sur le dossier d'extradition par l'administration américaine contre Julian Assange ont commencé cette semaine. La saga des 10 ans écoulés devrait consterner tous ceux qui se soucient de nos libertés, de plus en plus fragiles. Un journaliste et éditeur est privé de liberté depuis 10 ans, et selon l'ONU, arbitrairement détenu et torturé pendant une grande partie de cette période, subissant un intense confinement physique et une pression psychologique sans fin. Il fut mis sur écoute et espionné par la CIA, qui a ainsi violé ses droits les plus fondamentaux pendant son asile politique à l'ambassade d'Équateur à Londres. La juge qui supervise ces audiences est confronté à un grave conflit d'intérêts puisque sa famille fait partie des services de sécurité britanniques. Conflit d'intérêts qu'elle n'a pas déclaré et qui aurait dû l'obliger à se récuser pour cette affaire. Tout indique qu'Assange sera extradé vers les États-Unis pour y subir un procès devant un grand jury truqué, destiné à s'assurer qu'il passe ses jours dans une prison de sécurité maximale où il purgera une peine pouvant aller jusqu'à 175 ans. Rien de tout cela n'est arrivé dans une dictature du tiers-monde. Ça s'est passé dans une grande capitale occidentale, dans un État qui prétend protéger les droits d'une presse libre. Et au ralenti, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et la seule justification de cette attaque implacable contre la liberté de la presse, c'est qu'un homme de 49 ans a publié des documents exposant les crimes de guerre américains. C'est la seule raison pour laquelle les USA demandent son extradition et pour laquelle il croupit à l'isolement en prison de haute sécurité. Les appels de ses avocats pour obtenir une libération sous caution ont été rejetés. La presse a abandonné Assange il y a 10 ans, en écho au discours officiel qui le clouait au pilori pour des raisons d'ordre domestique et pour le traitement de son chat. Le personnel de l'ambassade a nié tout problème de comportement. Et après ces accusations, on a appris qu'Assange était filmé dans tous ses faits et gestes et qu'il devrait donc exister des images pour les étayer. Assange est aujourd'hui exactement là où il avait prévu d'être si les gouvernements occidentaux obtenaient ce qu'ils voulaient, en attendant l'extradition aux États-Unis afin d'être enfermé hors de contrôle pour le reste de sa vie. Thank you. États-Unis et Royaume-Uni se sont fixés deux objectifs. D'abord, Assange et Wikileaks, l'Organisation pour la transparence qui l'a cofondée, devaient être mis hors d'état de dénoncer leurs crimes. S'engager avec Wikileaks devait être rendu trop risqué pour des lanceurs d'alerte potentiels. C'est pourquoi Chelsea Manning, la soldate américaine qui a transmis des documents relatifs aux crimes de guerre américains en Irak et en Afghanistan, pour lesquels Assange est maintenant menacé d'extradition, Chelsea Manning, donc, a aussi subi un emprisonnement sévère et des amendes quotidiennes punitives pendant son incarcération pour la pousser à témoigner contre Assange, ce qu'elle refuse. L'objectif était de discréditer Wikileaks et les autres organisations similaires et de les empêcher de publier des documents plus révélateurs. Par exemple, montrant que les gouvernements occidentaux ne sont pas des humanistes gérant le monde dans l'intérêt de l'humanité. Mais en fait, les brutes mondiales hautement militarisées qui appliquent les mêmes politiques impitoyables de guerre coloniale, de destruction et de pillage qu'elles ont toujours menées. Ensuite, il a fallu faire souffrir Assange, terriblement et en public, pour en faire un exemple, pour dissuader d'autres journalistes d'envisager de suivre ses traces. Il est l'équivalent moderne d'une tête sur une pique, exposée aux portes de la ville. Couverture médiatique mondiale et succès foudroyant pour les USA. La plupart des journalistes des médias commerciaux sont encore de connivence enthousiaste dans la diffamation d'Assange, principalement alors en ignorant sa terrible situation. Quand il s'est précipité à l'ambassade d'Équateur en 2012 pour demander l'asile politique, les journalistes de tous les médias commerciaux ont ridiculisé son affirmation, présentée comme paranoïaque. Maintenant, bien sûr, pleinement justifiée, selon laquelle il se protégeait des efforts des États-Unis pour l'extrader et l'enfermer pour de bon. Ces médias ont maintenu leur discours alors même que s'accumulaient les preuves du montage d'un dossier d'espionnage à son encontre par un jury spécialisé, organisé dans le district est de Virginie, où sont basés les principaux services de sécurité et de renseignement américains. Le jury est dominé par des membres du personnel de sécurité américain et leurs familles. Son espoir d'un procès équitable est donc inexistant. 8 ans de désinformation par les médias commerciaux et leur complicité dans la démolition du personnage ont construit l'indifférence du public à l'égard de l'extradition d'Assange et l'ignorance de ses lourdes implications. Les journalistes commerciaux ont accepté les arguments prétendant que la justice était respectée en enfermant Assange indéfiniment, même avant son extradition, et en bafouant ses droits juridiques les plus fondamentaux. L'autre aspect de l'histoire, c'est-à-dire les diffamations qui se sont multipliées contre Assange, est toujours absente de la couverture médiatique, qu'il s'agisse de CNN, de New York Times, de la BBC ou du Guardian. D'abord, on a prétendu qu'Assange avait fui les interrogatoires sur les allégations d'agression sexuelle en Suède, même si ce sont les autorités suédoises qui l'ont autorisé à partir. Même si le premier procureur suédois, Eva Finne, a rejeté l'enquête en reconnaissant qu'il n'y a aucun soupçon de crime, avant qu'un autre procureur ne la reprenne pour des raisons à peine cachées et politisées. Assange n'a pas fui les interrogatoires, mais a au contraire, par la suite, invité des procureurs suédois à l'interroger sur son lieu de séjour à l'ambassade. Option qu'ils ont acceptée dans d'autres cas, mais qu'ils lui ont résolument refusée à lui. Aucun de ces éléments n'a été fourni comme contexte pour l'affaire suédoise par les médias commerciaux. Beaucoup d'autres éléments en faveur d'Assange ont simplement été ignorés, comme la falsification de preuves dans le cas de l'une des deux femmes qui a allégué une agression sexuelle et le refus de l'autre de signer la déclaration de viol rédigée pour elle par la police. L'histoire a également été grossièrement et continuellement déformée comme étant liée à des accusations de viol, alors qu'Assange était simplement recherché pour être interrogé. Aucune accusation n'a jamais été portée contre lui. L'autre procureur suédois, Marianne Ny, et ses homologues britanniques ont apparemment voulu éviter de tester la valeur de leurs allégations en interrogeant véritablement Assange. Le laisser déprimé dans une petite pièce de l'ambassade a bien mieux servi leurs objectifs. La classe politique et les médias ont changé d'avis quand l'affaire suédoise a été classée sans suite. Il était devenu évident que le procureur initial avait eu raison de conclure qu'il n'y avait pas de preuves, mais au contraire, absence d'accusation même. Soudain, la détention d'Assange était implicitement justifiée pour des raisons politiques totalement différentes. Parce qu'il avait soi-disant aidé la campagne électorale présidentielle de Donald Trump en 2016, en publiant des courriels prétendument piratés par la Russie. Ces courriels ont révélé la corruption du camp d'Hillary Clinton et les tentatives de saboter les primaires démocrates pour éliminer Bernie Sanders, son rival à l'investiture présidentielle. La campagne de diabolisation contre Assange s'est plutôt concentrée sur des questions susceptibles de mobiliser les libéraux et la gauche, qui pourraient autrement avoir des scrupules à rejeter le premier amendement et à enfermer des gens pour avoir fait du journalisme. La droite autoritaire s'est peu préoccupée de la détention d'Assange pour avoir dénoncé les crimes de guerre américains. C'est pourquoi peu d'efforts ont été déployés pour la convaincre. Comme les allégations suédoises ont, malgré l'absence d'enquête, servi à exploiter la pire sorte de politique identitaire impulsive de la gauche, l'histoire des courriels piratés a été conçue pour s'aliéner la base du Parti démocrate. L'allégation de piratage russe persiste, même si des années plus tard, après une importante enquête sur le Russia Gate menée par Robert Mueller, elle n'est toujours pas étayée par des preuves concrètes. Certains proches de l'affaire, comme l'ancien ambassadeur britannique Craig Murray, ont toujours insisté sur le fait que les courriels n'avaient pas été piratés par la Russie, mais avaient été fuités par un initié désabusé du Parti démocrate. Et une organisation de transparence comme WikiLeaks n'avait pas d'autre choix, après avoir reçu ces documents, que de dénoncer les abus du Parti démocrate, quelle qu'en soit la source. Et Assange et WikiLeaks se sont retrouvés mêlés au fiasco russe, gaspillant les énergies démocrates dans une campagne contre Trump qui l'a plutôt renforcé qu'affaibli. Le Guardian et même aller jusqu'à inventer ouvertement une histoire dans laquelle ils ont faussement rapporté qu'un assistant de Trump, Paul Manafort, et des Russes, non nommés, ont secrètement rendu visite à Assange à l'ambassade, sans répercussion ni rétractation. Et Jonathan Cook joint un document attestant de cette... De la diffusion de ce, j'allais dire canular, de cette fake news. Tout cela a rendu possible la suite. L'affaire suédoise s'étant évaporée, sans plus de motif pour ne pas laisser Assange sortir de l'ambassade, les médias ont soudain décidé qu'une violation technique de la liberté sous caution était un motif suffisant pour qu'il continue à être détenu à l'ambassade, ou mieux encore, pour qu'il soit arrêté et emprisonné. Assange n'avait bien sûr outrepasser cette liberté sous caution que pour demander l'asile à l'ambassade équatorienne, par crainte justifiée d'une extradition aux États-Unis. Aucun de ces journalistes bien payés ne semblait se souvenir que dans le droit britannique, le non-respect des conditions de mise en liberté sous caution est autorisé s'il existe un motif raisonnable. Et fuir la persécution politique est manifestement un motif très raisonnable. De même, les médias ont délibérément ignoré les conclusions d'un rapport de Nils Melzer, spécialiste suisse du droit international et expert des Nations Unies en matière de torture. Rapport selon lequel le Royaume-Uni, les États-Unis et la Suède avaient non seulement refusé à Assange ses droits juridiques fondamentaux, mais s'étaient aussi entendus pour lui faire subir des années de torture psychologique. Une forme de torture, a souligné Melzer, qui a été perfectionnée par les nazis, parce qu'elle s'est avérée plus cruelle et plus efficace pour briser les victimes que la torture physique. Assange a souffert de la détérioration de sa santé et du déclin psychologique qui en a résulté. Et il a perdu beaucoup de poids. Les médias n'ont que mentionné en passant son incapacité à assister à une audience du tribunal pour raison de santé. Ils ont tout simplement ignoré les conclusions de Melzer, selon lesquelles Assange a été et est encore torturé, comme si ces conclusions n'avaient jamais été publiées. Depuis 2 ans, dans toute la presse britannique grand public, aucun article ne mentionne Nils Melzer, ni Assange, ni la torture. Information extraite de la base de données Factiva le 29 août 2020. L'année dernière, la police britannique, en coordination avec l'équateur de Lénine Moreno, souhaitant resserrer les liens avec Washington, cette police britannique est entrée dans l'ambassade pour traîner Assange de force, avec 4 soldats à la fois, dehors, et pour l'enfermer dans la prison de Belle Marche. Les journalistes ont encore joué les idiots. Ils avaient passé des années à professer d'abord la nécessité de croire les femmes dans l'affaire Assange, même si cela signifiait ignorer les preuves. Puis ils ont proclamé le caractère sacré des conditions de libération sous caution, même si elles n'étaient utilisées que comme prétexte à la persécution politique. Tout cela a été balayé en un instant. Soudain, les 9 années de détention d'Assange pour enquête sur une agression sexuelle inexistante et une infraction mineure à la liberté sous caution ont été remplacées par une histoire d'affaires d'espionnage. Et les médias se sont de nouveau ligués contre lui. Il y a 10 ans, l'idée qu'Assange puisse être extradé vers les États-Unis et enfermé pour le reste de sa vie, son journalisme étant rebaptisé espionnage, cette idée a été jugée si improbable, si scandaleusement illégale, qu'aucun journaliste grand public n'était prêt à l'admettre comme étant la véritable raison de sa demande d'asile à l'ambassade. Elle a été tournée en dérision comme un produit de l'imagination fiévreuse et paranoïaque d'Assange et de ses partisans, et comme une couverture intéressée pour lui éviter de faire face à l'enquête de Suède. Quand la police britannique a envahi l'ambassade en avril 2019 et l'a arrêté pour l'extrader vers les États-Unis au prétexte d'accusations d'espionnage auxquelles s'attendait Assange, les journalistes ont rapporté ces faits comme s'ils ignoraient tout de cette histoire. Les médias ont gommé le contexte qui les aurait fait passer pour complices ou dupes volontaires de la propagande américaine, apologistes de l'exceptionnalisme américain. Bien sûr, ça aurait encore donné raison à Assange, en démontrant son intégrité journalistique, contrairement à leurs pratiques commerciales complaisantes, servant le pouvoir. En ce moment, tous les journalistes du monde devraient être mobilisés pour protester contre les abus dont Assange est et a été victime, et contre le sort qu'il subira si son extradition est approuvée. Il devrait protester en première page et dans les journaux télévisés contre les abus de procédures flagrants et sans fin, et lors des audiences d'Assange devant les tribunaux, y compris en soulevant le conflit d'intérêts flagrant de Lady Emma Arbuthnot, la juge qui préside son procès. Il devrait s'émouvoir de la surveillance que la CIA a illégalement organisée à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur, quand Assange y était confiné, annulant le procès américain déjà malhonnête qui lui était intenté en violant ses entretiens avec ses avocats. Il devrait s'indigner face aux manœuvres de Washington, validées honteusement par les tribunaux britanniques et qui visent à l'extrader sous accusation d'espionnage pour avoir osé demander des comptes aux puissants. Ce travail, qui est au cœur même de ce que le journalisme prétend être. Les journalistes n'ont pas besoin de se soucier d'Assange ou de l'aimer. Ils doivent s'exprimer en signe de protestation, car l'approbation de son extradition marquera la mort officielle du journalisme. Alors, tout journaliste découvrant les plus sombres secrets ou seulement des vérités embarrassantes sur les États-Unis devra se taire ou risquer d'être emprisonné pour le reste de sa vie. Ça devrait terrifier tous les journalistes. Mais la majorité des journalistes occidentaux, bien sûr, ne découvrent jamais au cours de toute leur carrière professionnelle un secret important des centres de pouvoir. Ils remanient les communiqués de presse et les briefings des groupes de pression. Ils exploitent des sources au sein des gouvernements qui les utilisent comme moyen d'atteindre les vastes audiences qu'ils dirigent. Ils relaient ragots et coups fourrés depuis les couloirs du pouvoir. La réalité du journalisme, c'est 99% de ce qu'on appelle l'actualité politique. L'abandon d'Assange par les journalistes, manque total de solidarité pour l'un des leurs, persécutés, comme ces dissidents envoyés au goulag, cet abandon devrait nous déprimer. Car cela signifie non seulement que les journalistes ont abandonné toute prétention à faire du vrai journalisme, mais qu'ils ont même renoncé à l'espoir ou à l'éventualité que cela soit fait par quelqu'un d'autre. Ça signifie que les journalistes commerciaux sont prêts à être considérés avec encore plus de mépris par leur public que ce n'est déjà le cas, car leur complicité et leur silence les ont rangés du côté des gouvernements pour s'assurer que toute personne qui détient vraiment le pouvoir de rendre des comptes, comme Assange, finira derrière les barreaux. Leur choix fait d'eux une élite captive, preuve qu'ils servent le pouvoir au lieu de le confronter. Moralité, les journalistes commerciaux se soucient moins de la vérité que de leur carrière, de leur salaire, de leur statut et de leur accès aux puissants. Edward Herman et Noam Chomsky ont expliqué dans le livre « La fabrication du consentement, gestion politique des médias de masse », ces journalistes officiels intègrent la classe des grands médias après de longs processus d'éducation et de formation destinés à éliminer ceux qui ne sont pas en accord avec les intérêts de leurs employeurs. Mais par le biais de lanceurs d'alerte, Assange a dévoilé la vérité brutale qui n'a servi aucun pouvoir, sauf nous, les citoyens, en montrant ce qui est fait en notre nom. Pour la première fois alors, nous avons pu constater à quel point le comportement de nos dirigeants était laid et souvent criminel. Assange n'a pas seulement dénoncé la classe politique, il a également dénoncé la classe médiatique pour sa faiblesse, son hypocrisie, sa dépendance vis-à-vis des centres de pouvoir, son incapacité à critiquer un système commercial qu'elle a intégré. On ne pardonne pas ce crime de la vérité à Assange. C'est pourquoi ils seront là pour applaudir son extradition. Comme le laisse deviner leur silence assourdissant, constaté en particulier depuis l'ouverture du procès ce lundi 7 septembre. Certains attendront que son extradition soit garantie pour publier des articles peu compromettants, arguant que, aussi désagréable qu'Assange soit supposé être, il ne méritait pas le traitement que les États-Unis lui réservent. Mais ce sera beaucoup trop peu, beaucoup trop tard. Assange a eu besoin de la solidarité des journalistes et de leurs organisations médiatiques il y a longtemps, ainsi que de leur dénonciation virulente de ses oppresseurs. Lui et Wikileaks étaient en première ligne d'une guerre visant à refaire le journalisme, à le reconstruire, pour en faire un véritable frein au pouvoir incontrôlé de nos gouvernements. Les journalistes ont laissé passer l'occasion de se joindre à lui dans cette lutte. Mais ils ont fui le champ de bataille, le sacrifiant à leur maître. C'était donc l'article du Grand Soir de Jonathan Cook. Maintenant, un article d'Edoui Plenel pour Julian Assange en défense du journalisme. Le journalisme est l'accusé du procès d'extradition de Julian Assange qui s'est ouvert à Londres. Le fondateur de Wikileaks n'est pas un espion, mais le militant d'un droit fondamental, celui de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Le sort de Julian Assange nous concerne tous et toutes, journalistes et citoyens, professionnels de l'information et publics auxquels elle est destinée. C'est pour avoir fait des révélations majeures sur les guerres américaines et leur violation des droits humains que le fondateur de Wikileaks fait face aux États-Unis à 18 chefs d'accusation, dont celui d'espionnage. La demande d'extradition des autorités américaines est le point d'aboutissement de 8 années de persécution constante. Actuellement détenu en Grande-Bretagne, Assange y est privé de liberté depuis 2012, ayant vécu 7 ans enfermé à l'ambassade d'Équateur, où son intimité privée et ses rencontres avec ses avocats ont été espionnées par les prestataires de la CIA. Julian Assange a permis la révélation mondiale de crimes de guerre, de cas de torture, d'enlèvement et de disparition, de corruption économique et de fraude fiscale, de mensonges d'État et d'atteinte aux libertés fondamentales. Relayé par les médias du monde entier, toutes les informations révélées par Wikileaks étaient d'un intérêt général majeur. Il était légitime de les rendre publics au regard du droit international. Julian Assange, Wikileaks et tous les médias qui ont repris leurs informations ont servi le libre exercice d'un droit fondamental des peuples souverains, celui de savoir tout ce qui est fait en leur nom par des États, des gouvernants et des administrations qui leur doivent des comptes. L'extradition de Julian Assange vers les États-Unis signifierait la remise en cause de ce droit fondamental, reconnu par toutes les déclarations universelles et conventions internationales. Ce serait une atteinte sans précédent à la liberté de presse, à la liberté d'enquêter, à la liberté d'informer. Elle transformerait en délinquants et en criminels les journalistes qui révèlent les secrets illégitimes des pouvoirs et les lanceurs d'alerte qui les aident loyalement à les trouver. Elle ouvrirait la voie à une offensive générale contre le droit d'informer, dont témoignent déjà la répression et la persécution d'autres journalistes d'enquête et lanceurs d'alerte, à l'instar de Chelsea Manning, Edward Snowden, Glenn Greenwald et Rui Pinto. C'est le sens de l'appel lancé ce lundi par l'initiative « Journalists Speak Up for Assange », soutenue par plus de 1300 journalistes du monde entier. Journalistes pour Julian Assange. Défendre Assange, c'est défendre le journalisme. C'est-à-dire défendre sa raison d'être, au service d'un droit fondamental qui fut proclamé en même temps que les idéaux démocratiques portés par les révolutions parlementaires britanniques, indépendantistes, américaines et républicaines françaises. Sa formulation française, dans une proclamation du premier maire de Paris, qui fut aussi le premier président du tiers-État et de l'Assemblée nationale, tient en une phrase, énoncée le 13 août 1789. « La publicité est la sauvegarde du peuple ». Le mot « publicité », qui n'avait pas encore été gagné par la marchandise, signifiait « rendre public ». En l'espèce, tout ce qui concerne le peuple souverain, tout ce qui est fait en son nom, tout ce qui implique le bien commun. Wikileaks, à l'initiative de Julian Assange, qui en est le fondateur et l'éditeur, a répondu à cet appel en augmentant sa portée grâce aux outils de la révolution numérique. Associant en même temps que le partage, Wiki, donc qui signifie partage, les liens qui tissent Internet, links, et les fuites massives de métadonnées, leaks. Sauf à renoncer aux principes professionnels inscrits dans ces chartes de déontologie, aucun journaliste ne saurait contester que les révélations de Wikileaks furent d'intérêt public, ouvrant grande la voie suivie par nombre de lanceurs d'alerte qui nous ont permis de découvrir d'authentiques crimes, guerriers, économiques, fiscaux, etc., commis à l'abri de secrets, indûment protégés. Outre les questions de droit essentielles posées par l'acharnement américain contre Assange, c'est la question juridique décisive pour la profession de journalisme que pose le procès Assange. Le secret des pouvoirs doit-il l'emporter sur le droit de savoir ? Toutes les législations fondamentales, déclarations et conventions internationales élaborées depuis la Seconde Guerre mondiale ont établi que le secret ne saurait être l'alibi de crimes ou de délits. La justice arbitre, le plus souvent, en faveur du droit fondamental de savoir ce qui relève de l'intérêt général. Enfin, arbitre ou arbitré. Accepter que le directeur d'un média d'information, et Wikileaks en est un, soit traité comme un espion ou un hacker, autrement dit un criminel de haut vol, c'est se résoudre à la criminalisation du journalisme, et plus particulièrement du journalisme qui dérange, qui révèle, qui dévoile, qui éclaire, démasque et dénonce. Si Assange est extradé aux États-Unis où il risque la prison à vie, ce jour-là marquera une date sombre dans l'histoire de la liberté et une immense régression du droit d'informer au pays qui s'honorait de l'avoir énoncé dans une formulation radicalement démocratique avec le premier amendement de la Constitution américaine. Les démocraties doivent être saines, c'est-à-dire capables d'accepter des contre-pouvoirs, des contestations, des révélations, des vérités qui bousculent les pouvoirs établis. En ce sens, le sort de Julian Assange est l'enjeu d'un combat global et d'un défi universel.
Le capitaine américain a sabordé mille navires, mis leurs équipages en dérive. Le capitaine américain a piraté mille paradis, fait chavirer 100 000 pays. Sur tant de rivages accostés, à décharger un conquérant, ses cargaisons empoisonnées de colonels colonisants, d'enfants gâtés casqués d'acier, de multinationalisants. Et dans ces îles prises au lasso, sont amarrés trop de bateaux, les pêcheurs ne vont plus en mer, les poissons nichent dans les mines. Les paysans cherchent leur terre à travers les champs d'héroïne. Capitaine américain, capitaine américain, capitaine américain. Et quand les marins sont lâchés, simple exercice de routine, les femmes sont mises en vitrine, marquées d'un prix et consommées, accouchant d'enfants souvenirs, sans patrie et sans avenir. Je ne crois plus au jour béni de la bonne mutinerie, où les enfants d'Amérique s'en iraient jeter à la mer, tous les pilleurs de misère, les capitaines américains. Et dans ces îles prises au lasso, sont amarrés trop de bateaux. Les pêcheurs ne vont plus en mer, les poissons nichent dans les mines. Les paysans cherchent leur terre à travers les champs d'héroïne. Capitaine America, Capitaine America, Capitaine America.
Le sort judiciaire de Julian Assange se joue en Grande-Bretagne, le pays de George Orwell, l'auteur anti-autoritaire de 1984. L'un des phénomènes propres à notre époque est le reniement des libéraux, soulignait George Orwell dans sa préface de 1945 à La ferme des animaux, longtemps inédite, où il s'alarmait de l'affaiblissement général de la tradition libérale occidentale. Le premier texte ayant radicalement défendu la liberté d'informer sans entrave ni censure, sous-titré « A speech for the liberty of unlicensed printing ». Il est connu dans notre langue sous l'intitulé « Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure ». Datant de 1644, cette adresse au Parlement anglais trouva son premier traducteur français fin 1788, quelques mois avant le début de la Révolution française. Ce n'était autre que l'un de ses principaux orateurs à venir, le comte de Mirabeau. Sur la liberté de la presse, imité de l'anglais Milton, cette citation extraite du livre « Tuer un homme, c'est détruire une créature raisonnable. Mais étouffer un livre, c'est tuer la raison elle-même. » Et ça nous rappelle le texte écrit à Guernesey d'un certain Victor Hugo. Texte que je vous ai lu déjà moult et moult fois à Contre-Histoire. Mirabeau y prolonge lui-même le plaidoyer de Milton. Après avoir rappelé que l'Angleterre fut la première nation à accepter la liberté de la presse. « Que la première de vos lois consacre à jamais la liberté de la presse, conclut-il, la liberté la plus inviolable, la plus illimitée, qu'elle imprime le sceau du mépris public sur le front de l'ignorant qui craindra les abus de cette liberté, qu'elle dévoue à l'exécration universelle le scélérat qui feindra de les craindre, le misérable. » Quant au texte de Milton, il se termine par une défense de la liberté de la presse comme sauvegarde face aux erreurs qui sont aussi communes dans les bons gouvernements que dans les mauvais. Cette fraîcheur nous vient de cette révolution anglaise, la première des révolutions politiques modernes, précédant l'enchaînement des révolutions américaines, françaises et haïtiennes, c'est celle qui, de 1642 à 1660, avec une éphémère république et l'exécution du roi Charles Ier Stuart, c'est celle qui ouvrit l'horizon d'un libéralisme politique radical, à rebours des monarchies absolues, des bonapartismes impériaux et des césarismes républicains. Plus connu de nos jours pour son œuvre de poète, l'un des plus grands en langue anglaise, John Milton en fut pleinement acteur, l'un des publicistes les plus actifs et les plus radicaux. On lui doit d'ailleurs, en 1642, 2 ans avant son plaidoyer pour une radicale liberté d'informer, de publier et de diffuser, cette lucidité prophétique, parfois reprise dans le mouvement des Gilets jaunes français face aux violences policières. Ceux qui ont crevé les yeux du peuple lui reprochent d'être aveugle. Or, l'un des principes défendus par Orwell dans sa préface longtemps méconnue, exhumée en 1995 pour le 50e anniversaire d'Animal Farm, est entré en 1976 dans le droit européen, avec l'arrêt Handyside de la Cour européenne des droits de l'homme. Il stipule que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Je répète, il stipule ce principe défendu par Orwell. Il stipule que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent, concluait la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique. Avec les révélations de Wikileaks, Julian Assange a servi ces principes démocratiques. Sans s'embarrasser de juridisme, Orwell avait fait plus court et plus direct. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et répondant par avance à d'éventuels contradicteurs, il s'était contenté d'une citation en guise de justification. C'était un vers de Milton, le poète. « By the known rules of ancient liberty », littéralement, « par les règles connues de l'ancienne liberté ». C'est à cette ancienne liberté que les journalistes que nous sommes demandons à la justice britannique de rester fidèle en libérant Julian Assange et en refusant son extradition aux États-Unis.
Je m'appelle Manuel, Dieu donné au Tilia, mis en cage piégée pour avoir trop pensé, bâillonné et battu pour avoir trop parlé. J'aime mieux mourir boiteux que de vivre honteux. Disparu au matin pour avoir applaudi le peuple enfin debout qui criait assassin, sans procès condamné pour avoir réclamé qu'on libère mes frères qui criaient liberté. Toutes les prisons du monde sont tout aussi immondes. Un petit trou dans un mur pour mieux compter mes jours. Un Judas pour jeter la pitance au pourceau. Dans les couloirs des bruits pour m'apeurer la nuit. Je m'appelle Manuel, Dieu donné au Tilia. Mise en cage piégée pour avoir trop pensé. Bâillonné et battu pour avoir trop parlé. J'aime mieux mourir boiteux que de vivre honteux. Tortionnaires et tyrans sadiques en uniforme, sont faits de la même étoffe, la guenille des lâches. Du courant électrique jusqu'au bon papa flic, ils se prennent pour des rois dans leur palais de rats. Tous les gardiens de tout s'achètent pour de sous. Quand ça ne leur suffit pas de me meurtrir la chair, de me briser les os, ils me parlent de ma mère, de ma femme, de mon frère, qu'on fusille dans leur cou. Je m'appelle Manuel, Dieu donné au Chilia. Mis en cage piégé pour avoir trop pensé. Baillonné et battu pour avoir trop parlé. J'aime mieux mourir heureux que de vivre comme eux. Je préfère mourir boiteux que de vivre honteux. Faire mourir heureux que de vivre honteux, que de vivre comme eux, que de vivre honteux.
Contre-histoire suivra, bien entendu, méticuleusement, l'évolution du procès, toujours sous forme de podcast. Merci de votre écoute et à bientôt.